deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers d'Evaluna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques sûrement.
Théâtrales peut-être.
Inclassables parfois. Écrit libre.
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 Voici une émission sur la santé, dans laquelle vous n'entendrez ni généraliste, ni spécialiste. Pas de statistiques, pas de diagnostics. Juste des histoires où il est question de malades et parfois de médecins. Juste de la fiction, même si certaines histoires, comme celle qui suit, évoquent, paraît-il, une situation ayant réellement existé.
Sous haute tension. Élisabeth de Villedon. Le réveil sonne. Je me lève, j'ai une boule dans la gorge, les mains moites, des crampes au ventre. Je dois y aller. Geste mécanique. J'avance à reculons, mais je finis par y arriver. Je sonne. Une timide jeune femme, un peu gauche, boutonnée de travers, me fait patienter. Soudain, un homme masqué en tenue bleue m'interpelle. « Bonjour, monsieur, c'est à vous. » Je me sens blêmir ou rougir, je ne sais. J'ai chaud, j'ai froid. « Installez-vous, me dit-il. » Je m'assois, je m'allonge, je soulève ma tête. Je regarde à gauche, à droite. La lumière crue m'aveugle. Je perçois les tons pastels du décor, les sons énervants d'une playlist qui se veut apaisante. J'accroche enfin un poster du Vendée Globe et ses bateaux multicolores. Ah oui, partir sur l'océan, naviguer au vent, loin d'ici. Je me rallonge. L'homme en bleu se lave les mains et les poignets. Soigneusement, enfile des gants en nitrile. Je le vois passer sa main devant le détecteur de sa lampe cyalithique qui focalise alors la lumière sur l'intérieur de ma bouche. Il introduit son miroir d'examen bucco-dentaire, écarte les tissus mous, je sens ma mâchoire s'étirer en une affreuse grimace de clown et il repère l'endroit où se trouve la lésion. Il met alors un capteur numérique derrière la dent concernée et se retourne vers son écran d'ordinateur pour consulter ma radio rétro-alvéolaire, me dit-il. Je suis d'un regard tendu ce praticien de haute taille, long bras, longues jambes, le cheveu dru et le sourire rassurant menteur. Je vous avais prévenu, c'est une prémolaire trop carriée, il va falloir l'extraire, me dit-il, j'ai besoin de votre consentement éclairé. Éclairé, je bougonne, ai-je le choix ? Je murmure un oui déjà mourant. Ouvrez la bouche, lance-t-il d'une voix énergique. Je vais vous faire une anesthésie locale. Non, soufflai-je dans un cri rauque. Alors il va prendre sa batte de baseball dans le coin d'une pièce voisine, me la montre et me sort. Vous préférez ce type d'anesthésie ? Devant mon air ébahi, il éclate d'un rire énorme. Bienvenue chez votre dentiste. Il repose avec précaution sa batte sur laquelle il a dessiné un smiley et écrit « Bonne nuit ». Il arbore le sourire satisfait d'une bonne blague. Je me reprends, je redresse la tête. Je suis le maire de ce patelin, que diable ! Je ne vais pas flancher pour si peu. Il avance une aiguille vers ma bouche en mode furtif. Je m'immobilise par prudence, de peur qu'il me rate. Avec un syndesmotome, une sorte de lancette, il va séparer la dent de son attache épithéliale. Par une pression continue, il provoquera la lisse du ligament dentaire, à savoir sa destruction, et il mobilisera la dent avec un élévateur pour pratiquer la subluxation, c'est-à-dire rendre la dent mobile, puis il délogera la dent avec un davier. Je m'étais renseigné sur docteur.com. Il appelle Brigitte et me présente sa nouvelle petite stagiaire qui va l'assister. J'aperçois le regard incertain de la brune, sa posture embarrassée, et mes craintes remontent à la surface. Ne pas fermer les yeux, faire barrage aux images de torture qui envahissent mon cerveau inquiet. Le praticien se concentre, il a le geste précis, opère avec minutie et demande à Brigitte de tenir l'aspirateur chirurgical qui sert à évacuer les liquides et solides en cours de travail. La stagiaire agrandit soudain ses yeux en regardant ma bouche. Fascinée, elle se penche pour mieux voir, les yeux exorbités, le geste erratique. Moi, je ne sens pas la douleur, mais ça doit bouillonner de sang là-dedans. L'anxiété me reprend lorsque le dentiste lance d'une voix mesurée « Attention Brigitte, vous êtes en train d'aspirer la luette de monsieur. Si vous pouviez dévier légèrement la canule. C'est bien ma chance de tomber sur une débutante. La luette, cette excroissance de chair qui pend entre mes amygdales. Je frissonne. J'ai eu chaud. L'opération est terminée, monsieur. Ravi, le dentiste me montre ma dent sanguinolente. Elle a été gentille, votre dent. Elle est venue à moi en un seul morceau. » J'ai des hauts le cœur. Ça saigne un peu, mais mordez sur cette compresse et gardez-la en bouche pendant une demi-heure environ. Un caillot va se former, me prévient-il en me remettant sur pied. Je flageole. Résumons. Évitez alcool, tabac, buvez froid, mangez mou et tout ira bien pour favoriser le processus de guérison. En cas de douleur post-opératoire, je vous prescris des antalgiques. Guilleret me raccompagne à la réception du cabinet et me confie à Brigitte. « Sa femme, me déclare-t-il avec satisfaction, elle remplace mon assistante malade. J'ai vraiment eu chaud. Un petit verre va me remonter. »
Sturm und Drang. Un texte de Bernard Sieller, lu par l'auteur, avec l'aide de Caroline Lancio.
Continuez, s'il vous plaît.
Oui. Alors, finalement, toujours dans ce rêve, j'arrive au sommet de ce pic rocheux que j'ai mis tant de temps à gravir, à une espèce de belvédère naturel. Et de là, je contemple le paysage pratiquement à 360 degrés. C'est magnifique. Il y a comme un sentiment de plénitude, de bonheur à se retrouver soudain là, seul, au-dessus de cette masse immense et cotonneuse, silencieuse et presque irréelle, infinie et imposant le respect de la grandeur. Oui, c'est cela qui se dégage de cette vue, du calme et de la grandeur. Un sentiment de gratitude m'envahit, vous comprenez ? La certitude d'être unique, d'avoir accompli ce que peut-être personne n'avait réussi avant moi, de découvrir un paysage vierge de tout autre regard, de déflorer cette beauté éternelle si merveilleuse que les larmes montent aux yeux et qu'une certaine fierté, oui, une certaine fierté me submerge soudain. Par contre, ce qui est décevant, c'est qu'en dehors de cette mer de nuages, on ne voit rien, ou presque rien. Quelques arbres au loin qui me narguent, comme si la nature avait quelque chose à me reprocher. Je ne comprends pas pourquoi il y a ces arbres qui survivent au-dessus de cet éther de nuages. Et tout ce qui est au-dessous, la vie dans la vallée, je vais presque dire ce qui se passe sur terre, dans le monde, je ne le vois pas. C'est caché, dissous, ça n'existe plus. Comme si je survolais tellement les choses qu'elles me devenaient lointaines, irréelles ou inaccessible.
Et ensuite ? Qu'est-ce que vous faites ensuite dans votre rêve?
Attendez, je réfléchis. J'essaye de me rappeler. Ah, ça y est, je me souviens. L'envie que je ressens en premier lieu à ce moment-là, c'est celle de m'envoler, d'aller encore plus haut. Mais en même temps, la forte appréhension de ne pas pouvoir décoller, de ne pas pouvoir planer sereinement sur ces immensités, ou peut-être plutôt la peur de me brûler les ailes si je m'approche trop du soleil.
C'est normal. C'est votre surmoi qui vous alerte sur vos limites.
En revanche, et c'est contradictoire, me semble-t-il, une très solide confiance en moi-même. Je pense au nom que m'ont donné mes parents et qui a fixé mon destin. En hébreu, il signifie « Dieu avec nous ». C'est ce qu'il veut dire, « Dieu avec nous ». C'est génial, non, ce patronyme dont j'ai hérité.
Et vous en pensez quoi?
Que je peux m'appuyer sur lui et les autres sur moi. Que je suis au sommet de la connaissance, mais que beaucoup de choses m'échappent encore. Je suis au sommet, mais ce sommet est fragile, car ils ne me suivent pas, ils ne me comprennent pas. Je perçois clairement leur injuste ressentiment à mon égard. Ils l'ont assez manifesté, et hélas, il va falloir que je réprime leur débordement inconsidéré. Moi, je vois au-dessus des nuages, des obstacles, des contraintes, je sais ce qu'il faut faire, mais je n'arrive pas à les en convaincre. C'est très contrariant, très agaçant. Je vois loin, je perçois ce qui échappe à la plupart d'entre eux. J'essaye désespérément de leur expliquer, mais ils s'obstinent, me ressassent à satiété les mêmes arguments que je ne veux plus entendre.
Vos ambitions sont probablement trop vastes, vous ne croyez pas ? Vous n'arriverez pas à contrôler tout cela.
Je ne pourrai peut-être pas contrôler cette situation, mais je vais leur dire que je vais la contrôler, ce qui revient au même. Ils ne comprennent pas, les ingrats, qu'ils ont la chance de m'avoir, que mes analyses et mes intuitions vont leur permettre de surmonter toutes ces crises, d'en sortir par le haut. Je veux réduire les risques, supprimer les dangers qui menacent, conforter l'économie. Il y a urgence, toutes ces réformes indispensables, incontournables, et dont ils ne perçoivent pas la nécessité, je veux...
Excusez-moi de vous interrompre, mais...
L'heure est écoulée ?
Oui, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est 500 euros. Oui, en liquide. Merci. À la semaine prochaine, Monsieur le Président.
FM 91.2, les ateliers d'Eva Luna.
Sortons du cabinet médical pour partir ailleurs.
Down on the Mississippi River in a knock-do-dive, I met a trumpet playing character and man alive. When he began to riff, he really played it from the hip. And when I asked about his name, they told me that's the lip.
Laure du Rhin. Été 1871, après avoir brillamment combattu Napoléon III à Sedan et avoir poursuivi l'armée française jusqu'à Paris, je fus libérée de mes obligations militaires. C'est alors que je me lançais un nouveau défi. Descendre le Rhin en kayak, depuis sa source jusqu'à la mer du Nord. Ce soir, réussite et gloire sont au bout de mes pagaies. Demain, ce sera la consécration. Pour l'instant, je dîne avec mon aide de camp. Après Sedan et Paris, il a continué d'être à mon service. Pendant que je descendais le fleuve, lui suivait à cheval, depuis la rive, préparant les bivouacs ou réservant une chambre d'auberge. Même si nous avons tous les deux quitté l'armée prussienne, nos rapports sont encore très militaires. Mon lieutenant, pour demain soir, tout est prêt pour votre comité d'accueil. En plus de quelques-uns de vos amis,
il y aura un représentant de l'autorité locale des Pays-Bas et même le nouveau consul allemand. C'est lui qui présidera le banquet en votre honneur. Un peu plus tard, embrumé par la chaleur du feu de camp, quelques temps forts de mon périple animent mes pensées. À chacune de ces étapes, c'était une nouvelle victoire sur le fleuve. C'était une nouvelle odyssée dont j'ai été, à chaque fois, le héros. D'abord, mon arrivée sur le lac de Constance. Entouré par son écrin de montagne, il m'accueillit par sa sérénité, un moment de bonheur et d'extase, de sublime solitude. J'avais l'impression que le temps suspendait son vol, que j'étais en pleine rêverie du rameur solitaire. Une halte bienfaisante, après une première partie de parcours difficile, voire très sportive. Dans ses débuts, le fleuve fougueux courait au milieu de gros galets qui heurtaient le fond de mon embarcation. Il se jetait dans des cascades qu'il me fallut contourner par la rive en portant le canoë, aidé de mon aide de camp, toujours accompagné de son cheval. Puis ce fut mon entrée glorieuse dans la plaine d'Alsace. Une fois dépassé le coude, après Bâle, le Rhin est totalement allemand sur ses deux rives, la forêt noire à ma droite, les Vosges à ma gauche. J'eus alors une pensée poignante pour mes compagnons cavaliers, morts au front lors de leur charge héroïque. Le sacrifice de mon second, Julius von Katzenelnbogen, n'a pas été vain, ni celui de mon ami, Wilhelm von Strahlenheim. Aujourd'hui, les différents royaumes germaniques se sont regroupés pour former une nation nouvelle, solide, ancrée sur le fleuve, l'artère vivante de son commerce, sa colonne vertébrale. Enfin, le souvenir le plus vivace, celui qui supplante tous les autres, est la navigation de tous les dangers sur la trouée héroïque que le Rhin a creusée au travers du massif schisteux de la Rhénanie. Entre ces rives escarpées, la navigation y est très difficile. Il y a de gros rochers en travers de son courant, des cailloux qu'un géant aurait jetés dans le fleuve pour pourrir la vie des bateliers et leur causer toutes sortes de douleurs. Je n'ai pour autant pas oublié d'admirer toutes les forteresses éditées à flanc de rochers, témoins d'un passé tumultueux fait de luttes et de guerres. Toutefois, lors du passage du rocher de la Lorelei, j'ai pris bien soin de me concentrer sur la navigation et de jouer de la pagaie pour contourner les traîtres récifs. Trop de marins ont été ensorcelés par le chant envoûtant de la nymphe. Trop ont été éblouis par sa chevelure d'or. Trop ont été précipités dans les flots, dans d'atroces souffrances, après avoir été déchiquetés par les rochers. Mais moi, je m'en suis sorti victorieux et mon embarcation indemne. Une fois ces évocations évaporées, c'est l'heure d'aller se coucher. Demain m'attend une longue journée de navigation. Demain soir, ce sera l'heure de ma gloire et celui du banquet offert en mon honneur. J'aurai encore gravi une autre montagne, atteint un autre sommet. D'ici là, je rêve. Attablé avec les dieux et les héros des légendes allemandes, j'assiste à leur querelle à mon propos. Certains veulent me glorifier pour mon exploit, avoir descendu un fleuve de feu et avoir vaincu les êtres maléfiques qui le peuplaient. D'autres, au contraire, veulent me punir pour mon arrogance, pour ma vanité grandissant de jour en jour à l'approche du but et de la gloire résultante. Ce sont eux qui l'emportent. C'est à ce moment-là, en fin de nuit, que je me réveille. Une violente douleur irise mes lombaires, ainsi que le bas du ventre. Elle me coupe la respiration. Ce sont le déchaînement de la furie des Valkyries, l'explosion de la forge de Nibelungen, le piétinement de la chevauchée fantastique. Tout cela me traverse le ventre pendant que Siegfried me lacère les reins avec Balmung, l'épée avec laquelle il trancha la tête du dragon. Ce n'est plus l'or du Rhin avec ses rochers rhénans, mais l'horreur du Rhin avec ses calculs rhénaux. C'est pire que la douleur du jeune Werther, C'est le crépuscule des dieux.
Texte de Bernard, lu par Anaïque Frappard.
And Basin Street is a street where all the boys and the good folks meet down in New Orleans, in the land of dreams. And you never know how nice it seems, and that's how much it really means. No, 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 dear to me.
Tranche de vie, de Henri Burcard, lu par Michel Lannes.
Ce n'est pas ma première crise, mais là, le médecin m'explique que celle-ci ne passera pas comme les précédentes. Il y a urgence. Hospitalisation immédiate, l'opération est déjà programmée pour le lendemain. Rencontre avec le chirurgien qui aura l'insigne honneur d'explorer mon appareil urinaire jusqu'au cœur de mon rein. Il m'écoute relater sobrement mes symptômes. Ça fait très très mal. Accueille mes ressentis avec détachement et me détaille le programme. J'arrive tranquillement le matin. On m'anesthésie, on m'introduit une sonde qui remonte le courant jusqu'à la rencontre du calcul, le saisit dans ses petits bras musclés et le ramène par le même chemin. Je me repose le reste de la journée tandis qu'on vérifie que tout va bien. Et je repars le lendemain matin en sifflotant, bref, une formalité. Nous y voilà. Enfin, surtout moi. Nu comme un ver auquel on aurait passé une chasuble, pure hypocrisie, puisque ce qu'elle cache sera bientôt l'objet exclusif des attentions de l'équipe. La piqûre fait son effet. L'instant d'après, je reviens à moi sur un lit roulant. L'infirmière qui le pousse m'informe que l'opération s'est bien déroulée et que j'ai la chance d'être le seul occupant de la chambre et en plus d'avoir la télé. Mais c'est alors que tout bascule. Vous allez pouvoir regarder l'attentat du gratte-ciel à New York. Je la dévisage consterné. Qu'est-ce que c'est que cette clinique où on se permet un humour aussi foireux? Je réagis. Je trouve pas ça très drôle. Elle se fige et je comprends à la voir qu'elle ne plaisante pas. Nous sommes le 11 septembre 2001. Je viens de me réveiller et j'ignore l'heure. J'allume le récepteur. Les images en boucle m'agrippent. Choc, confusion, incrédulité, sidération, incompréhension, angoisse. Un avion surgit et percute sans cesse une tour. Des témoins crient, des hommes et des femmes fuient ou convergent. La caméra fixe la fumée qui s'échappe des niveaux supérieurs. Rien ne se passe plus. Si, on zoome et on voit la ligne noire de l'étage frappé. Plus haut, piégé par le feu, des désespérés agitent des tissus aux fenêtres. Un homme chute en un long vol plané avant de disparaître derrière un immeuble. Les pompiers entrent dans la tour comme à la parade. Équipement, uniforme et casque de conquistador sous les ovations et les applaudissements. Les commentaires erratiques meublent sans perturber le défilé hypnotique des séquences. Puis soudain, dans les hurlements de la foule, un autre avion frappe la deuxième tour, s'y désagrège pour ressortir en un nuage de feu, de fumée, de débris, hachés menus par la traversée de l'immeuble. La nouvelle scène se répète ad nauseam, filmée sous tous les angles, de loin par la caméra d'un reporter au ras de la tête d'un passant qui regarde ailleurs. Des hypothèses commencent à s'échanger, contradictoires, parcellaires, terrorisantes. On sait maintenant qu'il s'agit bien d'un attentat. Les images sont trop fortes pour qu'on écoute vraiment. Un avion se serait écrasé sur le Pentagone. On parle aussi d'un autre détournement. Oui, on ignore comment et d'où vient cette... Attendez. Oh mon Dieu! Dans un silence terrifiant, la tour nord bascule et s'effondre, puis le grondement, puis le souffle énorme balaie l'espace, puis les blocs de béton et de ferraille, puis la grêle des débris, et enfin une poussière noire obscurcit tout, envahit l'écran et sature mon cerveau. c'est trop. Le vide. Je coupe la télé, bois un verre d'eau, pars aux toilettes. Mauvaise idée. Ma vessie évacue les lames de rasoir dont elle est remplie. Je hurle, me rappelle qu'on m'avait évoqué possible douleur de miction. Euphémisme typiquement médical. De retour sur le lit, je résiste 10 minutes, puis je rallume. Un amoncellement de débris a remplacé la tour nord. La tour sud, percutée plus bas, brûle sur le tiers de sa hauteur. Quand, sous mes yeux, se reproduit le cauchemar de l'effondrement. Comme au ralenti, les étages s'encastrent les uns dans les autres, tandis que l'antenne du bâtiment, toujours verticale, les accompagne presque gracieusement. Fuite réflexe des piétons, une deuxième couche de cendres et de gravats finit de namper l'immeuble. Ruines, voitures, un paysage lunaire, volcanique prend place, où errent encore des fantômes gris comme le décor, hébété comme je le suis moi-même. Le lendemain matin, le chirurgien me montre la bille qu'il m'a retirée. Sa taille me fait frémir. Dans un accès d'empathie inattendu, le praticien admet « ça devait être douloureux ». Je réfrène l'envie de lui répondre et je fais bien. Car il a une dernière chose à me confier en me serrant la main. « Il y a 50 ans, vous seriez mort ». La phrase résonne en moi. Je suis donc, d'une certaine façon, un survivant sauvé par des hommes et la technologie. Cette technologie que d'autres hommes ont détournée pour tuer. J'ai bénéficié d'une tranche de vie supplémentaire quand tant d'autres ont eu leur vie tranchée ce même jour. Je pense à tous ceux qui fuient les tours à temps, où sont sortis indemnes des décombres, ou étaient en retard pour prendre le train ou le métro qui les amenait à la mort. Pour moi, la vie reprend son cours ordinaire et pour eux, chacun va poursuivre son chemin, emportant de ce jour ce qu'il en fera avec le temps. Un cadeau ou un fardeau.
And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling its romance.
Cette émission a été réalisée par Sylvie Bauget. Réalisation technique et montage de l'émission, Luc Richard et Dominique Bernard. Voix de l'émission, Marie-Jeanne. And just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a jubilose. Life goes on without me. JTFM 91.2, les ateliers des Valounets.